Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Audrey et Aurélie, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du Framework IT chez Devoteam Revolve. Donc pour rappel, ce podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Donc bonjour Audrey et Aurélie, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour, donc je suis Audrey Huvet, je suis responsable marketing, partenariat et communication au sein de Devoteam Revolve, aux côtés de cette merveilleuse équipe depuis 2011 maintenant déjà.
Bonjour, je suis Aurélie Sénaud, je suis photographe et vidéaste et je collabore avec Devoteam Revolve depuis presque 5 ans maintenant.
Donc aujourd'hui, je le rappelle, on est là pour parler du dispositif IT qui a été mis en place chez Devoteam Revolve. Donc je vais vous demander si vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce fameux dispositif, qu'est-ce qu'il englobe et qu'est-ce qu'il représente pour vous.
Oui, bien sûr, merci Eva. Donc moi, je vais commencer tout de suite par une petite citation d'Esko Kilpi, qui est un chercheur finlandais qui travaille justement sur les défis que doit relever le monde du travail et de la connaissance avec l'avènement des environnements du travail numérique. Donc ça va être une citation en anglais, excusez mon accent. Donc c'est « The new era of work demands people with HIT skills, humanities, engineering, arts and technology together ». Et c'est de là dont vient notre framework HIT. Donc le framework HIT, donc Humanities, Engineering, Arts and Technology. Donc c'est un framework qui a une vision de l'organisation beaucoup plus holistique qu'un simple revenu financier. Donc c'est le cadre dans lequel on veut travailler et qui sont essentiels à la réalisation du projet Devoteam Revolve. Donc c'est notre moteur, notre essence, et c'est le cadre de travail qui doit nous permettre d'être exigeants avec nous-mêmes, tout en entretenant notre ouverture d'esprit. C'est pour ça aussi qu'Aurélie est là avec nous aujourd'hui. Et donc si la vision engineering et la technologie sont fortement ancrées dans le cœur de métier de Devoteam Revolve, puisqu'on est une société de consulting technologique, tout ce qui est humanities et art, c'est un pas de côté qu'on a fait, mais qui font aussi notre originalité et qui sont indissociables pour nous d'une technologie qui doit être au service d'un projet qui va au-delà du projet technologique pur, qui est un projet humain, un projet de société. Donc nous allons investir de plus en plus sur ces deux aspects. Et j'aime beaucoup aussi l'interprétation, alors je vais encore faire une citation, de l'artiste Yvan Sig, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant également, qui est un artiste peintre, et qui disait très justement que le HIT, c'était l'énergie de mouvement des 200 personnes qui font des deux Devoteam Revolve, parce que c'est des deux ici à l'époque, au quotidien. Donc mieux nous travaillons ensemble en conscience, en attention, en sobriété, en agilité et en créativité, plus Devoteam Revolve est HIT. Et pour lui, le système HIT est intelligent, harmonieux, ne perd pas d'énergie en frottement, en turbulence, en inertie, en onde de choc, à résister, à repousser, à se répéter. Et c'est autant d'énergie qu'il faut insuffler dans la créativité, ce qui fait en grande partie sa différence. Donc voilà, donc Yvan a très très bien, je pense, compris l'essence même de ce qui fait le HIT. Donc voilà, et puis donc si je peux faire quelques mots peut-être sur la partie humanities. Donc aujourd'hui, on voit l'entreprise conçue comme une machine qui va être gérée, qui va être managée via les chiffres. Et en fait, on a oublié que l'entreprise est faite avant tout des personnes qui la composent. Et que du coup, ce n'est pas que des machines, même si la technologie est partie prenante dans nos métiers. Et du coup, on fait système grâce à ces personnes qui composent cette même entreprise. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on se rend compte que les projets de transformation chez nos clients, que ce soit l'adoption du cloud ou l'adoption de nouvelles méthodologies liées aux nouvelles technologies, inculquent souvent et rencontrent des difficultés humaines, au moins autant que techniques. C'est-à-dire qu'en fait, les frictions sont aussi dans l'adaptation à ce changement de la part des collaborateurs, des collaboratrices. Et donc c'est autant aussi de projets qui ratent, qui sont des échecs pour ces raisons, aussi bien de friction collective, et du coup c'est plus du fait souvent de l'humain que de la technologie. Donc pour nous, on a vraiment remis au cœur de nos considérations cet aspect humanities, et on va commencer à travailler de plus en plus aussi avec des sociologues sur cet aspect sociologique de la technologie, et c'est comment faire pour que les personnes puissent se remettre en mouvement et retrouver du sens aussi dans ce qu'ils font. On en parle beaucoup aujourd'hui évidemment.
Oui.
Donc voilà, donc pour nous, voilà, c'est vraiment un enjeu qu'on souhaite explorer, sur lequel on travaille énormément au sein de Devoteam Revolve. Donc c'est remettre de la conscience dans ce qu'on fait, et de l'attention et de l'intention dans ce qu'on fait également.
Oui, et puis ça revient aussi avec l'idée que la technologie n'est pas prédisposée, c'est ce qu'on en fait qui va déterminer la technologie. Donc c'est important aussi de penser à l'humain et de le remettre au centre des réflexions. C'est très
tout
important.
Tout à fait. Et ne pas oublier le pourquoi on fait les choses aussi. Mm-mm. Et on le fait pour, pour les gens. Voilà. On met en place des technologies, mais pour derrière un produit qui soit utile ou un service qui soit utile aux gens, à la société, après à la Terre, on verra plus tard. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect humanities. L'aspect engineering, alors il y a quelqu'un chez nous qui en parle beaucoup mieux, c'est Christophe Roux. Donc tu as déjà interviewé Eva.
CF, le premier podcast sur le reverse engineering.
Exactement. Donc il a travaillé beaucoup, beaucoup sur la posture justement d'ingénieur et qui fait justement l'analogie en se disant, bah voilà, l'ingénieur, c'est celui qui va utiliser sa boîte à outils et la technique, la technologie. Mais l'ingénieur, il doit prendre en compte des contraintes qui sont autres que techniques. Elles sont aussi humaines, organisationnelles, financières, éthiques. Et donc pour lui, il y a beaucoup de méthodologies qui existent aujourd'hui. Il y a une boîte à outils à faire vivre, mais surtout, il faut que l'ingénieur soit orienté solutions concrètes, utilisables. Et donc, il y a plusieurs solutions possibles à ça. Mais l'ingénieur est vraiment là pour se dire, moi, je vais travailler sur le produit dans son habitat et dans sa finalité. Et je ne vais pas faire de la technologie pour la technologie, comme on peut voir souvent des personnes qui vont dire, tu fais quelle techno, toi, c'est quelle techno que tu aimes. Non, l'ingénieur, la techno en soi, peu importe. Ce qui est important, c'est de penser son produit dans sa finalité et dans son habitat naturel. Et pour lui, voilà, c'est important justement d'avoir ces nouvelles approches-là et de prendre en compte plusieurs outils qui sont externes et extérieurs aussi à l'entreprise ou au projet. Donc on peut s'appuyer sur d'autres domaines comme la biologie, l'industrie, la robotique par exemple. Il faut aller chercher aussi un peu de créativité, de capacité d'innover. Et puis surtout, avoir cette démarche d'exploration en vue de partager des résultats de l'exploration. Donc c'est notamment ce que Fabien Lallemand disait par rapport au feedback. L'automatisation a permis justement de remonter plus de feedback pour comprendre si l'on fait bonne route ou fausse route quand on conçoit un produit ou un service. Donc cette posture d'ingénieur est vraiment très très importante pour nous et on est vraiment censé comprendre le problème qu'on est en train de régler et le comprendre sous toutes ses facettes. Or, un technicien, c'est pas cette même position-là. Lui, il doit bien connaître la technologie pour optimiser les performances et la fiabilité de la technologie qu'il implémente. L'ingénieur, lui, la conçoit. Et donc, les deux sont importants. Donc, il faut avoir ce duo-là, mais il va falloir quand même, il faut quand même garder cette posture d'ingénieur. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi et que j'aime beaucoup dans la posture d'ingénieur, c'était cet esprit système D, donc l'innovation. J'en parle souvent, mais Jugad aussi, parce que j'ai invité un peu en Inde. Donc, c'est le côté indien, système D. Ils sont très forts de faire plus avec moi, de trouver un peu de détourner aussi les...
De s'adapter à l'environnement.
Exactement, puis détourner les fonctions premières des outils. Et donc, c'est ce que je fais avec ce que j'ai. J'ai tout ce qu'il y a, c'est un peu les MacGyver. Quoi. Et donc, je suis créatif. Je peux construire quoi que ce soit. J'innove. Et surtout, en fonction de mes contrats, qui sont souvent humaines et technologiques. Donc voilà, pour moi on a besoin de ces deux aspects-là, à la fois l'ingénieur et le technicien ou la technicienne.
Oui, au final tout est lié.
Tout est lié, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une vision holistique.
Alors non, juste avant c'était la citation d'Yvan qui me parle beaucoup évidemment. Il fait des ponts entre les lettres du mot HIT, et c'est bien un mot composé de différentes lettres et qui communiquent entre elles et qui s'interconnectent. C'est l'idée de joindre l'outil à la pensée. L'art prend en compte la technique, son environnement, et c'est aussi un langage. C'est un langage qui met en jeu des gens qui le font et ceux qui le regardent, ceux qui y participent. Et regarder, sans regard, l'art ne sera pas grand-chose. Donc l'art est intimement lié au E, au H aussi, et le T naturellement, parce que l'art est aussi avant tout quelque chose d'académique. On apprend l'art, on entre dans une école, on est formé à peindre, on est formé à dessiner, on peut utiliser sa main, son pinceau, son corps aussi. Le Body Art est un mouvement qui a aussi permis de rendre plus accessible, peut-être de déplacer l'art et de le rendre plus accessible, parce qu'on peut créer aussi avec ce qu'on a sous la main, et son corps est son premier outil. Et ce qui est intéressant aussi dans ce framework, c'est de rendre toutes ces lettres poreuses, de créer, de les faire, de faire que ça circule en fait, parce que tout ça s'alimente. Donc je pensais au propos de Christophe qui parlait de l'outil et de la technicité, et l'art est à la fois un outil composé d'une multitude de médiums. Et donc, comme je vous disais, c'est aussi un apprentissage académique. Donc, on étudie l'art, ses mouvements, sa mutation au fil des décennies. On voit aussi qu'en fonction de l'évolution de la société, les enjeux ne sont pas les mêmes et que l'art devient quelque chose de politique. Il peut aussi servir à passer des messages, à questionner les choses et avec un peu de recul, parce que peut-être qu'avec des couleurs et des formes, le message passe différemment. Le A pour art vaut également pour la création, la créativité, la communication, l'expérimentation, le mouvement de la pensée qui complète celui du poignet, celui de la technique. Donc il faut bien des gens, il faut bien des mains, de la technique pour créer tout ça. Donc l'art a à la fois une valeur esthétique et aussi technique. Avec Yvan, on a pu expérimenter, on a pu en tout cas le voir faire dans les locaux. On a pu le voir intervenir chez des clients et le voir faire une sorte de work in progress. Ça nous place dans une position, dans une posture différente aussi quand on va au musée, regarder les choses toujours sur un mur accroché, on ne touche pas, c'est précieux. Art, Yvan, d'un coup... créer, produit des choses en direct, il réagit avec ce qu'il voit, en tout cas ce qu'il voit lui inspire des illustrations. Le graphisme aussi, Sandrine, je pense à Sandrine qui crée constamment avec des outils qui sont les siens en fait, des outils graphiques, elle y met des intentions, elle y met des codes aussi, elle les détourne, elle les met en couleur, la vidéo qu'on utilise, la photo, le son, on a énormément de médiums qui nous permettent de passer des messages, en fait, de mettre en lumière des gens, des concepts, des choses que Devoteam Revolve a à dire, en fait, et que l'ensemble des personnes au sein de Devoteam Revolve ont à dire. Beaucoup de gens y participent, et dans l'idée, il faudrait que tout le monde y participe, parce que il y a beaucoup de choses à découvrir chez chacun. Il y a eu de la danse aussi, je pensais à ça, parce que on a fait intervenir un danseur et on est pile poil dans l'idée du corps comme un outil, mais aussi comme un vecteur de messages. Je pensais notamment à un breakdancer qui était intervenu avec sa troupe et qui a fait un spectacle qui s'appelle Inside Data. Donc c'était intéressant pour lui. Hein, oui. Oui, B-Boy Phoenix, Arnaud Desprez, qui justement s'est intéressé à tout l'univers de la data pour venir nourrir sa danse qui était à du break, mais qui a dérivé vers la danse contemporaine. Il est sorti de ses cadres, en fait. La danse, elle est multiple, l'art est multiple. Il a nourri sa pratique à travers tout ce qui finalement l'entoure. Il est poreux comme pas mal d'artistes le sont, en fait.
Comme le framework IT.
Exactement, exactement. Les lettres s'enchaînent. On peut lire ce mot, donc on peut pas cloisonner ces lettres. Elles sont faites pour dire quelque chose, quoi.
Moi, je peux revenir sur quelque chose qui m'a particulièrement fait comprendre en fait l'ampleur de l'art dans la place du hit, c'est qu'effectivement l'art c'est un outil et c'est tout simple, mais en fait que tu me l'as dit tout à l'heure, ça m'a juste fait prendre conscience à quel point c'est vraiment un outil et à quel point on l'a mis de côté parfois, trop souvent peut-être et malheureusement, et qu'aujourd'hui je pense que c'est bien que Devoteam Revolve et peut-être d'autres entreprises le mettent en place et essayent d'inculquer ces valeurs, les remettre au centre peut-être de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est se remettre en question perpétuellement. On est dans une société qui avance très vite. Donc je pense que c'est important et l'art a toute sa place pleine et entière et il faut le rappeler.
Du coup, dans cette période de Covid, on se rend compte, nous, normalement, l'art est aussi un outil pour aider nos clients dans leur transformation. Comme je disais tout à l'heure, transformation cloud organisationnelle. Et aujourd'hui, comme il est plus difficile de réunir les gens et de pouvoir les animer à travers justement ces manifestations artistiques, on sent des points de friction. Et on a du mal à on les voit, on les perçoit, mais on a du mal à les régler. Mm-hmm. Et en fait, là où Aurélie ou Yvan font un travail remarquable, c'est qu'elles arrivent à créer du lien justement et à redonner de l'énergie aux équipes. Et à distance, c'est très compliqué parce qu'il faut se voir, il faut se comprendre. Il y a beaucoup de langage corporel. Tu parlais de body art, mais voilà, le corps exprimé énormément. Et aujourd'hui, cela manque. Et on s'est rendu compte vraiment, mais je pense même sociétalement, que la place de l'art commerce non essentiel, en fait, du coup, ça se ressent énormément sur le moral et sur la qualité de vie intérieure, en fait.
Tout à fait d'accord. Et pour revenir juste à ce que tu disais... En fait, ça dépend du point de vue où tu te places, parce que de mon point de vue, de ma formation artistique et de l'environnement que je connais, je pourrais dire aussi que les ingénieurs ou la tech, tout ça, ce sont des milieux qui sont inaccessibles, difficiles à comprendre, tu vois. Enfin, chacun, selon là où tu te places, effectivement, tu as la maîtrise ou pas de ton sujet. Et quand ça se rencontre, tu peux constater que la forme est différente, mais le langage n'est pas si éloigné, en fait. Mais il faut se rencontrer pour ça. Il faut aussi accepter de faire des ponts, de élargir un peu son spectre. Et oui, effectivement, les musées fermés, les théâtres fermés, les cinémas fermés, c'est difficile, quoi. Je pense que les terrasses manquent aux gens, mais je pense que les institutions culturelles manquent énormément. Et c'est pas Netflix qui remplacera tout ça.
Mais c'est marrant, en plus de voir... C'est vrai, déjà, je suis d'accord avec Audrey que vous faites un travail remarquable, parce qu'on a des a priori, je pense, sur le milieu de la tech, comment il pourrait être lié à l'art, de quelle façon. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir les gens se mouvoir dans ces nouveaux spectres, peut-être pour eux, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je veux dire, c'est des exercices nouveaux, même pour moi, par exemple, passer devant la caméra, bon c'est marrant, mais c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Et donc je pense que c'est ça aussi le travail qu'il y a à faire derrière, c'est faire ces ponts, ces liens, mettre en confiance et se rappeler, comme tu l'as dit justement, que c'est pas si éloigné et qu'au final on parle juste le même langage, parce qu'on est tous humains, et que c'est important d'avoir des ponts comme ça qui existent.
Ouais, et puis les a priori sont des deux côtés au final, parce que tu sais, l'image de l'artiste seul dans son grenier, malheureux, et c'est quand même des gros clichés. Et je pense que en tout cas, la collaboration avec Devoteam Revolve depuis des années me surprend encore sur pas mal de points, et notamment celui de l'espace qu'on m'offre pour justement tenter des choses, expérimenter, créer. C'est presque plus ouvert que dans le milieu de l'art, par exemple, ou dans différentes institutions culturelles où il y a une idée finalement de l'art, tu vois, de ce qu'on attend. Et là, c'est une équipe qui laisse place à la surprise, qui ne cloisonne pas et qui permet du coup... un terrain d'expérimentation, tu vois, où chacun... Ouais, vraiment. et où chacun peut prendre part. Tu vois, avec Margot, on a mis en place une idée de caisse à outils. Chacun peut, en fonction de ce que tu apprends, c'est tu mets un outil supplémentaire dans ta caisse et la main, pour rejoindre encore cette main qui va à la fois, cette main... C'est l'ordi, c'est le téléphone, c'est des boutons, c'est le pinceau, c'est le stylo, c'est l'outil, quoi. Cette main, on met en image des mains qui tiennent différents outils, parce que c'est au fur et à mesure qu'on apprend des choses et qu'on échange, cette caisse se remplit. Tu vois, c'est du savoir-faire en plus, c'est des connaissances en plus, des concepts supplémentaires. Ça s'élargit, cette caisse, elle se remplit. Et l'idée, c'est de faire aussi une communication participative. Chacun peut, c'est un fond blanc, c'est très simple, ça ne demande pas de maîtriser forcément des outils, mais au moins, tu peux toi-même te mettre en scène, tu prends photo ta main, ce qui t'inspire, et tu t'appropries cette communication, et chacun peut le faire, tu vois. Et ce qui est rare aussi, parce que c'est rare les structures qui te laissent autant d'espace, tu vois, pour proposer des choses et ils réagissent plutôt bien, alors que ça fait des années que je les mets quand même à contribution.
Non, et puis au final, c'est important de rappeler aussi qu'on a tous notre case à outils. Enfin, qu'on le veuille ou non, on l'a. Et je pense que c'est important, et c'est la chose qu'on essaye de faire chez Devoteam Revolve, c'est la partager. Parce que c'est bien, on l'a tous, mais... on peut enrichir celle des autres sans forcément perdre, nous, ce qu'on a dans notre boîte, quoi.
Et on est entouré d'images. On passe notre temps à en voir, à en consommer, à se mettre en scène. On passe notre temps à le faire. Et du coup, on ne peut pas s'en émanciper. En tout cas, quand on a une structure comme la vôtre, comme celle de Devoteam Revolve, c'est indispensable. Alors, autant intégrer le H, intégrer le T, intégrer toutes ces lettres aussi pour pouvoir... pour faire en sorte qu'elle ressemble aux gens qui composent Revolve.
Et le T, parce qu'on n'en a pas parlé finalement, la technologie. Donc je vais m'y atteler, ce n'est pas le plus facile parce que donc, forcément, on est entouré que de technophiles ou de techniciens chez Devoteam Revolve. Donc je sais que je vais être durement jugée par mes propos. Mais c'est vrai qu'en fait, la technologie, elle est au cœur de nos discussions. Elle prend énormément de place, et pas que chez nous, hein, dans la société, dans son ensemble. Elle est à la base de tout, hein, parce que comme tu le disais tout à l'heure, pour faire du H, pour faire du E, pour faire du A, il faut maîtriser des outils. Donc, pour les ingénieurs, ça va être par exemple le cloud, AWS chez nous. Pour toi, Aurélie, ton appareil photo. Et pour d'autres personnes, enfin par exemple autour de tout ce qui est sciences sociales, à ce moment-là, ça va être plus. Nous, on a étudié des sujets comme la théorie U ou ce genre de choses, qui sont des outils aussi également pour travailler sur de l'ingénierie sociale. Et donc, nous sommes justement, on aime bien dire le mot « doers », mais des « builders » aussi. Et donc, notre objectif, notre raison d'être, c'est d'apporter, de contribuer, de réaliser, de faire des choses. Tu parles de la main. Et donc, on a besoin de la technologie pour mettre en place les autres lettres. Et même si elle peut également être le fruit des autres lettres en elles-mêmes, quoi. Parce qu'elle est à la fois la base et la finalité. Mais elle ne doit pas prendre toute la place. Elle ne doit pas être au cœur de tout. Et la techno, comme j'ai tout à l'heure pour la techno, nous, on n'est vraiment pas pour. Et on est plutôt là pour se mettre au service d'eux, au service des projets, au service de la société, au service des utilisateurs, des utilisatrices. Et c'est un outil, pas la finalité uniquement. Et ce qui est important, ce qui est primordial, c'est l'attention que tu poses justement en tant qu'organisation dans ce que tu fais. Et au service de quoi ? Bon, ça, c'est une autre question et que chacun et chacune doit se poser. Et un autre sujet qui me touche beaucoup, c'est que la technologie n'est pas neutre, mais vraiment pas neutre. Il y a des enjeux éthiques, il y a faire des projets qui ont du sens, mais pas que, c'est l'intention, encore une fois, que tu mets dans l'outil. Donc, je crois que c'est Siménon qu'on parle beaucoup, on l'étudie beaucoup avec Christophe et Domenico, mais voilà, c'est l'attention et l'outil n'est qu'une extension, la technologie n'est qu'une extension en fait, du créateur ou de la créatrice, et va perdurer en plus au-delà de cette intention. Donc, je pense qu'elle doit aider à se reconnecter et non diviser. Et donc, le virtuel a cette tendance justement à croire qu'elle nous reconnecte en nous divisant. Et je pense que c'est là où on doit empêcher la technologie de nous soustraire à la réalité. Il faut vraiment faire qu'elle nous raccroche au vivant, à la réalité. Et donc, voilà, c'est toutes ces couches d'abstraction qu'il faut savoir lire. Et nous, je pense, en tant que société aussi technologique et technophile, on comprend ces enjeux-là et c'est pour ça que Gravity est né, que le podcast est né, c'est qu'on se doit aussi de rendre des comptes et de partager ce savoir-là pour donner des grilles de lecture à des personnes qui seraient non technophiles ou non techniciens. Parce que c'est illusoire de croire que parce qu'on a un téléphone et qu'on sait le maîtriser, qu'on comprend. On serait incapable aujourd'hui de recréer un téléphone. Enfin, je veux dire, c'est Blanche Gardin qui le dit beaucoup, mais ouais. Qui dit que voilà, en fait, ils se sont appropriés nos rêves. C'est-à-dire qu'on ne rêve pas, comme elle dit, on ne rêve pas d'être pilote d'avion. On rêve d'être l'avion. Et comme elle dit, on serait incapable de recréer notre outil de travail alors que Cro-Magnon faisait très bien ses silex. Mais je pense qu'on est vraiment là, aujourd'hui, pour se dire comment on peut se reconnecter au vivant et être utile et retrouver, redonner du sens dans l'attention qu'on donne à la technologie.
Quand on est dans le faire, on a un lien direct avec, avec ce qui est en train de se produire, quoi. Donc, c'est une façon de s'émanciper aussi, de s'émanciper de la technique. Une fois, ce n'est pas la fuir, au contraire, c'est l'acquérir. Parce qu'une fois que la technicité est acquise, c'est ce qui se passe après qui est intéressant. D'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil à Nantes, à la ville de Nantes qui nous accueille, là où nous enregistrons ce podcast, qui est un très chouette terrain de jeu artistique. D'ailleurs, on a vu sur Stéréolux et les machines de Nantes, ce magnifique éléphant à l'arrêt, mais qui va bientôt reprendre. Donc, si vous avez l'occasion, passez par Nantes, passez voir Devoteam Revolve et tous ces artistes et ces œuvres d'art in situ qui font du bien dans les déambulations, d'ailleurs. C'est bien aussi de ne pas être obligé d'aller dans les musées pour voir de l'art. C'est bien quand l'art est dans la rue, ouais.
Mais j'aimerais juste revenir aussi sur ce que vous disiez, c'est super intéressant. Et en fait, aujourd'hui, comme tu dis, la technologie, il faut qu'on la comprenne, qu'on rende des comptes, parce qu'elle s'est imposée, en fait. Il n'y a pas eu trop une notion de choix. Et aujourd'hui, je pense que, comme tu dis, on n'arriverait plus à faire des téléphones, mais c'est bien de comprendre pourquoi, comment, et se poser des questions. Parce que même si on n'est pas obligé de le refaire, c'est important de le questionner toujours. Et je pense que vraiment, encore une fois, ce framework IT, dans sa globalité, est indissociable. Tout est complémentaire, tout est lié. Et c'est un peu au final l'histoire de la vie. On ne peut pas faire sans et ouais, tout est lié, quoi. Du coup, j'aurais aussi une petite question pour vous, pour peut-être aussi faire avancer le débat sur ça. Est-ce que vous auriez une référence ou un ouvrage ou quelque chose qui vous inspire à partager à nos auditeurs qui sera en lien plus ou moins avec vos métiers ou ce framework ou les valeurs portées justement au sein de cette entreprise Devoteam Revolve.
Moi, si je peux vous conseiller quelque chose justement sur le rapport entre l'homme et la technique, ou tout ce qui est sujet d'éthique dans la technique, ce que je disais tout à l'heure, c'est Gilbert Simondon, qui a été le premier justement à théoriser ces sujets-là. Pour moi, voilà, c'est les années 40 ou les années 50, donc on était vraiment dans le tout début de l'avènement de l'industrie et de l'objet technique, et il a beaucoup, beaucoup théorisé ces sujets-là. Et je pense que c'est intéressant aussi de relire un petit peu ce qu'il écrit, je pense que c'est très important. Donc voilà, donc plus récemment, un acteur plus contemporain, moi j'aime beaucoup Alain Damasio, je pense que vous devez le connaître, mais qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, justement, de l'invasion de la technologie et surtout de la façon dont le marketing, alors moi c'est un sujet qui me touche beaucoup, mais a accaparé la technologie. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui a un objectif mercantile de toujours faire consommer plus. Si vous regardez les furtifs, par exemple, on voit vraiment l'invasion de la technologie au service du marketing dans la sphère réelle. C'est-à-dire que vraiment le virtuel va arriver dans le réel et donc on va avoir des pop-ups comme ça qui vont se glisser dans la vie réelle et on va se rendre compte que c'est travé d'embûche. Et pour moi, c'est un auteur qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, qui a beaucoup travaillé aussi avec Socialter par exemple, qui est aussi un magazine que je recommande vivement qui traite de ce sujet-là. Il a été aussi éditeur, je crois, enfin, il a dû écrire aussi pour Uzbek Erika. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui je pense que récemment c'est intéressant d'avoir cette personne-là qui re-questionne ça, mais en racontant des histoires.
Moi je citerais l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin, qui donc questionne la reproduction technique et ses conséquences sur l'art. Donc je cite, Benjamin définit l'aura d'un objet par l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il. Il élabore une théorie des variations de la perception de l'homme face à l'œuvre d'art changeante à cause des nouvelles technologies.
Je recommande vivement Bernard Stiegler, bon, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, qui est un philosophe français, mais il n'y en a plus beaucoup, et qui a vraiment dédié sa vie à la technique. À la technique, à la technologie, à l'éthique, aux représentations. Donc, c'est un homme en plus qui a une histoire folle, hein, c'est-à-dire qu'il il a vécu quelques années en prison, donc il a vécu c'est là-bas en fait, justement qu'il a appris la philosophie, qu'il a pris des cours, qu'il a commencé à lire beaucoup et à conceptualiser ses sujets. Alors je ne dis pas que ses livres sont faciles d'accès, hein, la société automatique est très très compliquée à lire, par contre ses conférences sont de très 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 bonne qualité et c'est un niveau de réflexion très intéressant.
Je pense que c'est un très bon, bonne référence de fin pour conclure ce podcast sur le framework HIT. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Audrey et Aurélie, et à vous dire à très bientôt sur le podcast de Devoteam Revolve.
Merci, à bientôt. Eva. À bientôt.